Bon, d'abord quelques annonces. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le dimanche Gaudete à cause du premier mot de l'introït, un dimanche de joie. C'est pour ça qu'il y a une règle spéciale. On a les fleurs exceptionnellement. C'est le seul dimanche de l'Avent pour lequel les prêtres peuvent mettre les fleurs sur l'autel. En principe, c'est des ornements roses. J'ai pas d'ornements roses, c'est assez rare. Et donc, on met le violet dans ce cas-là. Alors attention, cette semaine, il y a les quatre temps, donc mercredi, vendredi et samedi, vendredi, samedi, mercredi, quatre temps, donc jeûne et abstinence, c'est les règles de Pie XII. Jeûne, un repas par jour pour toutes les personnes de 21 à 60, vous pouvez prendre un petit truc le matin, un petit truc le soir, ou avoir votre repas le soir et à ce moment-là prendre un petit truc le matin, un petit truc à midi, comme vous voulez, mais un repas par jour. C'est pour tous les gens de 21 à 60, les vieux comme moi, on est dispensé du jeûne. Et abstinence, pas de viande pour tous ceux qui ont l'âge de raison, mais pas tout le monde. Donc, ceci pour mercredi, vendredi et samedi. Aussi, pour répondre à certaines questions, le jour de Noël, les gens qui sont inquiets, donc, monsieur l'abbé, le jour de Noël, c'est un vendredi. Est-ce qu'on pourra manger de la viande, le repas de Noël, le vendredi? Réponse, oui. Et si une fête d'obligation tombe un vendredi, l'abstinence saute. Donc, pour le jour de Noël, cette année, qui tombe un vendredi, vous pourrez manger de la viande. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui ont prié pour ma retraite que je viens de terminer. J'ai une petite retraite personnelle de 5 jours ici. Et j'avoue que j'ai reçu beaucoup, beaucoup de grâces, hein, des lumières assez extraordinaires. Je pense que c'est ma meilleure retraite en 42 ans de sacerdoce, 41 ans de sacerdoce. Donc merci pour tous ceux qui ont prié pour moi. Je me permets aussi de demander vos prières pour l'abbé Fernandez, un compagnon de promotion, François Fernandez, qui est près de la fraternité Saint-Pédis à Toulouse. Et qui est mourant. Donc il est en coma artificiel. Il a reçu l'extrême-onction en principe si son prieur a pu rentrer à l'hôpital, ce qui n'est pas évident, parce qu'on ne peut même plus aller dans les hôpitaux maintenant pour donner l'extrême-onction aux gens. Donc on ne sait pas très bien ce qu'il y a eu, une pneumonie qui est très mal tournée. Donc priez pour lui. Aussi, pour le jour de Noël, donc il y aura trois messes, près de 3 messes chaque Noël. Donc une messe à minuit, une messe à 10h, et je dirais ma troisième messe, finalement, sera plus pratique à 6 heures l'après-midi. Ce sera une messe basse sans serment. Aussi, donc, à la fin de la messe, nous aurons ce chant « Veni, Divin Messi ». Aussi, d'autres personnes m'ont posé des questions pourquoi j'avais deux sermons sur le site internet. Il y a deux sermons. Donc, le sermon qui est marqué sous le titre, le numéro du sermon plus bis, c'est le sermon du dimanche que je donne à la messe. Le premier sermon du dimanche, c'est un sermon plus intellectuel que je prépare à mon bureau une semaine ou 15 jours avant. Donc il y a deux sermons. Le sermon que j'ai préparé, qui est un sermon plus intellectuel, et le sermon du dimanche que je donne à la messe du dimanche, qui est un sermon, je dirais, plus du cœur. Parce que c'est un sermon qui correspond au sermon que j'ai préparé à mon bureau tranquillement, mais avec méditation toute la semaine sur le sermon. Donc j'espère que c'est plus le bon Dieu qui parle. Deuxième sermon, et puis Sabé Lafitte, sans doute, premier sermon, enfin, comme vous voulez. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a deux sermons. Alors, je vous lis les textes liturgiques du jour. Donc, l'épître, c'est l'épître de Saint Paul. Aux Philippiens, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je le répète, réjouissez-vous, que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos désirs à Dieu par la prière et la supplication accompagnées d'actions de grâce, et que la paix de Dieu, bien supérieure à toute pensée, garde vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus, notre Seigneur. On se lève pour l'Évangile, suite du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites vers Jean pour lui demander « Qui êtes-vous ?» Et il proclama la vérité et ne le nia pas. Point. Il proclama « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Quoi donc? Êtes-vous Élie ?» Et il dit « Je ne le suis pas ». « Êtes-vous un prophète ?» Il répondit « Non ». Ils lui dirent donc « Qui êtes-vous » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dites-vous de vous-même » Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le Seigneur, dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils continuèrent de l'interroger et lui dire « Pourquoi donc baptisez-vous si vous n'êtes ni le Christ, ni Élie, ni un prophète ?» Jean leur répondit, Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est lui qui doit venir après moi et qui a été placé au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de dénouer le cordon de sa sandale. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jésus baptisait. Veuillez vous asseoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, aujourd'hui, Saint Paul nous dit trois choses. Saint Paul nous dit trois choses dans l'Épître aux Philippiens, qui est repris dans l'introïde du jour. Première chose qu'il nous dit, Gaudete in Domino Semper, réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps, toujours. Deuxième chose, il nous dit, Dominus propias, le Seigneur est proche. Et troisième chose, Nihil solliciti citis, ne vous inquiétez de rien. Asseyez-vous, mademoiselle. Voilà donc ce qu'il nous faut utiliser. La première chose, ça semble étrange parce que nous sommes en pleine période de pénitence. L'avance d'un temps de pénitence, qu'est-ce que nous demande notre Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous demande la Sainte Église? La joie. Ça semble une contradiction. En fait, il n'y a pas de contradiction du tout. Pourquoi la joie? Parce que nous savons que la crèche est proche. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ arrive. On ne voit pas encore la crèche, elle est derrière la colline. On ne la voit pas encore, mais à cause de la foi catholique est la nôtre par le baptême, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ va arriver parmi nous. Et donc cette foi va nous donner une joie extraordinaire. C'est la joie de l'approche de la fête de Noël. Ça, c'est la foi et la joie. La deuxième phrase de Saint Paul qui nous dit que le Seigneur est proche, là, c'est l'espérance. Ce sont les deux vertus, les deux points sur lesquels il faut insister en ce dimanche. La joie et l'espérance. L'espérance, pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ s'incarnant, qu'est-ce qui va se passer? Notre Seigneur Jésus-Christ s'incarnant, c'est le pardon des péchés qui nous est donné. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est incarné à cause du péché. Certains théologiens pensent que si le péché n'avait pas été commis par Adam et Ève, eh bien notre Seigneur ne se serait pas incarné. C'est saint Thomas d'Aquin, entre autres, qui pense ça. Les franciscains, eux, pensent que de toute façon, notre Seigneur se serait incarné parce que la création de l'âme et du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la plus belle chose que Dieu ait jamais créée. Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne cette espérance parce que par la naissance de notre Seigneur, par son incarnation, qui arrive à son point d'arrivée avec la fête de Noël, c'est le pardon des péchés qui arrive. Et puis la troisième partie de l'épître de Saint Paul, ne vous inquiétez de rien. Là, au contraire, c'est la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous est donnée. Donc la paix avec la charité. On va essayer un petit peu de développer ça. Je crois que le point le plus important, c'est de réaliser que notre Seigneur Jésus-Christ est au centre de toute la création. Encore une fois, la plus belle chose jamais créée par Dieu, c'est l'âme et le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvent, on entend les gens, les catholiques, nous dire, même si la plus belle chose jamais créée, c'est l'âme de la Sainte Vierge. Non, l'âme de notre Seigneur qui a été créée, notre Seigneur Jésus-Christ a une partie créée en lui, puisqu'il est homme. Le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ sont encore plus beau que le corps et l'âme de notre Sainte Vierge Marie. Notre Seigneur Jésus-Christ est au centre de la création, c'est le point de départ de tout. Alors, je vous donne un exemple tout simple, une comparaison toute simple pour les routes nationales en France. Le point de départ, c'est en principe la place de Concorde à Paris, pareil. Avec l'histoire du monde, tout part de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Même les païens. Même les antichrétiens, même ceux qui peuvent pas supporter le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois qu'ils signent une lettre, ils donnent une référence à notre Seigneur Jésus-Christ. 13 décembre 2020. Et 2020 par rapport à quoi? Par rapport à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand un petit enfant apprend à l'école, vous apprenez, parce que maintenant je crois qu'on n'en parle même plus, que Vercès Historix a été battu par Jules César en moins 52, avant Jésus-Christ. Alésia, eh bien, c'est quoi? C'est moins 52 avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Donc même si un anti-catholique viscéral à un enfant de 6-7 ans qui lui demande « Papa, ça veut dire quoi 2020? C'est 2020 par rapport à quoi ?» Le père, même un anti-chrétien viscéral, sera obligé de répondre « Ben, c'est 2020 par rapport à la naissance d'une espèce d'original qui s'appelait Jésus-Christ, autant des Juifs et des Romains. » Et c'est qui Jésus-Christ, va demander le petit garçon. Oh, bon, c'est une espèce de prophète qui a été tué par les Romains, évidemment. Et l'enfant va demander, mais c'est quelqu'un d'important. Non, non, c'est quelqu'un qui n'a aucune importance. Qu'est-ce qu'il va dire, l'enfant? Il va dire, mais si c'est pas important du tout, pourquoi la naissance de Jésus-Christ est-elle le point de départ de toute l'histoire du monde? Alors là, les gens ne savent plus quoi répondre. Et c'est une chose étonnante. Moi, je pensais naïvement qui supprimerait aussi ça. Parce que c'est quand même embêtant. Un révolutionnaire anti-chrétien qui est obligé de faire référence à notre Seigneur Jésus-Christ à chaque fois qu'il donne une date. Je pensais qu'ils allaient éliminer ça. Ils ont essayé de faire ça à la Révolution. Rappelez-vous, entre la Révolution et l'arrivée de l'Empire, il y a eu une datation par rapport à la Révolution. Je pensais qu'ils feraient la même chose, qu'ils allaient essayer de rétablir la Révolution française, 14 juillet 1789, comme étant le point de départ de tout. Ils n'ont pas pu le faire. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment à la base de tout. Et on voit très bien, ça je crois aussi c'est très important à comprendre. D'ailleurs, c'est la première phrase de la Bible. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Pourquoi le ciel et la terre? Il aurait pu dire au début, Dieu créa le ciel, le soleil, les étoiles et la terre, parce que la terre, physiquement parlant, c'est une petite tête d'épingle dans l'univers. Quand vous comparez la taille de la Terre avec la taille des galaxies, c'est rien du tout. Le ciel et la Terre, tout l'univers autour de la Terre. La Terre est au centre de tout. Pourquoi la Terre est-elle au centre de tout? Parce que la Terre est la planète choisie par notre Seigneur Jésus-Christ, par Dieu, pour devenir le point de l'incarnation, le point d'ancrage de toute l'humanité. Dieu a créé tout l'univers et il a créé dans cet univers des esprits. Il y a deux sortes d'esprits. Il y a les anges et les hommes. Dieu a créé des êtres sans esprit. Il a créé les rochers, par exemple, qui n'ont pas d'âme. Il a créé les plantes, qui ont une âme, mais une âme purement végétative. Ils vivent, c'est tout. Puis il a créé les animaux, qui ont une âme végétative, une âme sensitive. Vous tirez sur une moustache du chat, il va crier, parce qu'il va pleurer, il va miauler, parce qu'il souffre. Il a une âme végétative et une âme sensitive. Mais Dieu a voulu créer des êtres plus intellectuels, avec une âme sensitive, une âme végétative, une âme sensitive, mais aussi une âme raisonnable. Les hommes et les anges, c'est tout. Donc les seules créatures qui ont une âme, qui ont une intelligence, sont les hommes et les anges. Quand on dit qu'un chien est très intelligent, c'est faux. Un chien a un instinct plus ou moins développé, mais il n'a pas d'intelligence. Seuls les anges et les hommes ont une intelligence. Donc, quand les hommes d'aujourd'hui dépensent des milliards et des milliards pour essayer de prouver qu'il y a des intelligences qui se promènent dans l'univers quelque part, des petits hommes verts, eh bien, ils peuvent toujours chercher, ils ne trouveront jamais rien, ils n'ont jamais rien trouvé. Qu'est-ce qu'il y a dans l'univers? Il y a les hommes et les anges comme êtres raisonnables. Donc, ils peuvent trouver des anges, soit des bons, soit des mauvais, des hommes ici-bas sur Terre, c'est tout. Donc, Dieu a créé les anges. A créé les hommes, et il a créé les anges, il a créé les hommes parce qu'une partie des anges s'est révoltée. Vous connaissez, je ne vais pas vous faire l'histoire de l'humanité, on n'a pas le temps. Une partie des anges s'est révoltée en suivant Lucifer, l'orgueil qui déjà pointe le bout de son doigt. Donc Lucifer se révolte, je ne servirai pas un tiers des anges et jeté hors du ciel, création de l'enfer. Donc Dieu est obligé de créer des hommes pour prendre la place des anges qui ont perdu la vision béatifique. Dieu a créé les anges, il a créé aussi les hommes, Adam et Ève. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une création de Dieu. À partir du limon de la terre, Dieu a créé le premier homme, Adam, puis la première femme, Ève. Il leur a donné une loi. Vous ne toucherez pas l'arbre au milieu du jardin terrestre, du paradis terrestre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, encore une fois, le démon est venu se venger. Qu'est-ce qui est venu susurrer? Vous ne mourrez pas. Vos yeux s'ouvriront. Vous deviendrez comme des dieux si vous mangez ce fruit. Et parce que vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. la liberté de conscience. Vous connaissez la suite ? Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu et ils ont été jetés hors du paradis. Et Dieu, dans sa miséricorde, nous a promis un rédempteur. Et ils ont dû attendre dans le martyrologe, c'est-à-dire le livre officiel qui contient la liste officielle de tous les saints canonisés par l'Église, le 24 décembre au soir. Il y a un texte très important. Le martyrologe est un livre qui est protégé par l'infaillibilité. Et dans ce texte du martyrologe du 24 décembre au soir, on donne le temps qui a été imparti entre vraisemblablement Adam et Ève et l'arrivée du Christ. Bon, le texte n'est pas très clair, on ne sait pas très bien si depuis la création du monde, il s'est passé, dit le texte, 5199 ans. Alors l'Église dit, pour la création de la terre elle-même, vous êtes libre. Pourquoi ? Parce que les sept jours de la création, le mot jour, c'est l'enseignement de l'Église, le mot jour peut être interprété ou comme une période de 24 heures ou comme une période plus longue. Donc vous êtes libre de penser, si vous voulez, que la terre a été créée il y a des millions d'années, ce n'est pas contre la foi. Par contre, l'arrivée d'Adam et Ève, c'est le mot jour qui est utilisé. Ça, ce n'est pas des millions d'années ou des centaines de milliers ou des dizaines de milliers d'années. 5199 ans. Entre la naissance, l'arrivée sur la terre d'Adam et Ève et l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, pendant tous ces siècles, notre Seigneur va préparer l'arrivée. Il va choisir un peuple, le peuple de l'Ancien Testament, le peuple hébreu, pour que notre Seigneur Jésus-Christ arrive dans ce peuple. Et il a choisi de toute éternité une jeune fille qui va arriver plus tard, très sainte Vierge Marie. Et comme elle deviendra, c'est son rôle extraordinaire, la mère de Dieu, c'est elle qui va donner son humanité à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a voulu qu'elle soit immaculée, conception. On vient de fêter cette fête magnifique. Et notre Seigneur Jésus-Christ arrive. Il va arriver dans la crèche de Bethléem, tout petit enfant. Et ce petit enfant qui semble absolument impuissant, peut même pas survivre sans le lait de sa mère, peut pas bouger parce qu'il est enveloppé de l'ange, ce petit enfant est le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous tous sommes appelés. Et notre Seigneur Jésus-Christ va grandir dans la Sainte Famille, protégé par notre Sainte Vierge Marie, protégé par Saint Joseph, et puis... Et là, il va être crucifié, vous connaissez l'histoire, crucifié, puis ressuscité d'entre les morts, et ensuite remonter au ciel au jour de l'ascension. Eh bien, il faut bien comprendre que tout, on voit très bien comment notre Seigneur Jésus-Christ, par sa naissance, est le centre de tout. La terre est au centre de tout. C'est pour ça que je suis farouchement géocentriste. Géocentrisme, c'est quoi ? C'est la terre au centre de tout. Parce que la terre est le lieu choisi pour l'incarnation. La terre est le lieu choisi pour la rédemption. Pourquoi ? Vous demanderez au bon Dieu le jour où vous arriverez au paradis. Alors, on nous raconte des choses aujourd'hui. On dit, mais vous n'avez rien compris, monsieur l'abbé, vous n'êtes pas au courant des dernières trouvailles. En fait, c'est le soleil qui est au centre de tout. Ah bon ? L'héliocentrisme. Alors, pendant un temps, ils ont dit, mais c'est le soleil qui est au centre de tout. Puis un jour, problème technique, ils ont découvert que le soleil aussi bougeait. Lui aussi tourner sur une orbite. Alors ils ont dit, mais c'est un peu changé, mais c'est toujours, c'est pas la Terre, c'est le centre de gravité du système solaire qui est au centre de tout. Puis un jour, nouvel problème technique, ils ont découvert, ces gens soi-disant intelligents, que le centre de gravité du système solaire tournait aux sources aussi sur une orbite. Autour de quoi ? Mais ils ne savent pas parce que tout bouge. La réponse, elle est toute simple. La Terre est au centre de tout parce que c'est le lieu de l'incarnation. Alors, il faut utiliser cette foi, c'est la foi catholique qui nous dit tout ça. La naissance du Christ, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la foi. Et cette foi, encore une fois, doit nous donner une joie extraordinaire, précisément parce que ces connaissances que nous avons par la foi sont fixes, ne changent jamais, puisque Dieu ne change jamais. Ce n'est pas comme les connaissances scientifiques qui changent toutes les 5 minutes. Non, Dieu est au centre de tout. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu jusqu'à la fin des temps et pour toujours, puisqu'il est Dieu. Ces choses ne peuvent pas changer. Alors, qu'est-ce que nous dit saint Paul ? Que notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous annonce ? Le pardon des péchés. Mais monsieur l'abbé, vous avez rien compris, moi je suis un pauvre type. Et alors ? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour les grands de ce monde? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour les grands saints? Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour qui? Il est venu pour les pauvres, les misérables, les malades. Il n'est pas venu pour le bien portant, il est venu pour ceux qui souffrent, pour les petits. Il l'a dit expressément, laissez venir à moi les petits-enfants. Celui qui ne vient pas comme l'âme d'un petit enfant dans son âme ne pourra pas posséder le royaume des cieux. Alors on peut reprendre le texte d'Isaïe cité par Saint Jean, cité par Saint Matthieu aussi. Qu'est-ce que dit Isaïe? Il dit, commence par dire, les aveugles vont ouvrir les yeux. C'est qui les aveugles? On est tous un peu aveugles. Les aveugles, c'est ceux qui sont atteints d'une maladie très grave qu'on appelle la cécité spirituelle. La cécité intellectuelle. Les gens qui ne veulent pas ouvrir les yeux parce qu'ils ne veulent pas changer. Donc ils ferment les yeux comme ça, ils ne voient rien. C'est la politique de l'autruche. Le danger arrive, je ne veux pas voir le danger, j'enterre ma tête dans le sable, comme ça le lion peut arriver, croquer l'autruche tranquillement. Donc, si je suis aveugle, eh bien je suis invité à la crèche. Je prends un guide parce que je ne vois rien, et puis je prends ma petite canne, et puis je commence à me mettre sur le chemin qui mène à la crèche. Et les boiteux aussi. Les boiteux sont invités, les boiteux sont aussi invités. Et qu'est-ce que c'est qu'un boiteux? Un boiteux, c'est quelqu'un qui a une jambe plus courte que l'autre. Donc il marche mal, il marche en boitant, parce qu'il y a une jambe qui est trop courte. Les boiteux représentent ceux qui n'arrivent pas à marcher droit dans la voie du bon Dieu, parce qu'ils gardent une occasion prochaine volontaire de péché grave. Alors évidemment, ils ne peuvent pas marcher correctement. Est-ce qu'ils sont invités? Eux aussi sont invités. Ils sont invités à la crèche de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors vous mettez un peu plus de temps pour y aller, parce que vous marchez mal, vous êtes boiteux, mais le bon Dieu est là, et les boiteux seront guéris aussi. Et les lépreux sont invités aussi? Ben oui, aussi. Monsieur l'abbé, tout le monde a peur des lépreux, et je vais contaminer tout le monde. Ne vous inquiétez pas, bon Dieu s'occupe de ça. Personne n'est contaminé à la crèche de Bethléem. Et les lépreux sont ceux qui vivent habituellement dans le péché mortel. Eh bien, aussi seront guéris. Et après, il y a même les morts. Les morts sont invités? Oui, les morts sont invités aussi. Les morts vont ressusciter. Les morts, c'est ceux qui sont tellement imbriqués avec le péché mortel qu'ils ne cherchent même plus à s'en tirer. Ceux qui sont dans le vice invétéré. Même ceux-là sont invités. Et les pauvres aussi. Les pauvres seront évangélisés, me dit le texte du prophète Saint Isaïe. Donc tout le monde est invité. Que vous soyez aveugle, que vous soyez boiteux, que vous soyez lépreux, que vous soyez sourds, parce que les sourds aussi, j'ai oublié cela, les sourds aussi, c'est ceux qui se ferment les oreilles pour ne pas entendre la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, le bon Dieu va nous enlever le cérémène spirituel qui est dans l'oreille spirituelle pour que nous entendions la prédication de notre Seigneur, qui invite tout le monde à la crèche. Et tous ceux qui se mettent en chemin, qui vont à la crèche, vont arriver devant la crèche dans 12-13 jours. Mais attention, pour entrer dans la crèche, il y a deux conditions. Première condition, il faut se baisser. Les pères de l'Église font remarquer, je vous l'ai souvent dit, que l'entrée de la crèche est basse. La grotte est basse. Donc il faut se baisser, il faut s'humilier pour entrer. L'orgueilleux qui ne veut pas se baisser, il ne rentre pas dans la grotte parce qu'il ne peut pas passer par la porte. Et puis une fois qu'on est dans la grotte, on va voir ce qui se passe. Les pères de l'Église disent qu'au moment de la naissance de notre Seigneur, la grotte qui était toute sombre s'est illuminée comme un soleil à cause de la naissance de notre Seigneur. Et donc on rentre dans la grotte, qu'est-ce qu'on va voir? Un petit bébé grand comme ça, la peau est pourrie, des déjections d'animaux peut-être encore là, c'est pas une chambre de 5 étoiles, hein. C'est une pauvre crèche. Ça sent peut-être pas très bon à cause des déjections d'animaux, la paille pourrie. Et puis on voit quelqu'un tout pauvre, Saint-Joseph, notre Sainte-Vierge-Marie. Il y en a qui vont faire demi-tour, qu'est-ce que c'est que ça? Le roi des rois qui naît, moi je m'attendais à un palace 5 étoiles, c'est une pauvre crèche, je m'en vais. Donc il faut s'abaisser et accepter de regarder, ouvrir les yeux. Là, me dit, monsieur l'abbé, alors à ce moment-là, si je suis votre raisonnement, tout le monde arrive à la crèche, tout le monde se convertit, alléluia, tout le monde va au ciel. Ben non. Là, c'est Bergoglio qui dit ça, c'est pas l'Église catholique. Parce que l'Évangile nous parle aussi de ceux qui ne veulent pas se mettre en route. La condition, c'est de prendre la suite de tous ces petits personnages de la crèche, là, que j'ai mis sur le côté. Il faut se mettre derrière eux. Il y en a qui ne veulent pas s'y mettre. Les qui se parlent, par exemple, l'Évangile parle d'Hérode, le roi Hérode. Est-ce que le roi Hérode a accepté de se mettre sur le chemin qui mène à la crèche? Non, il a refusé. Pourtant, il a eu des grâces extraordinaires, hein. Trois rois mages qui viennent, qui débarquent avec une caravane extraordinaire. Les gens de Jérusalem sont dans tout en émoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils n'ont jamais vu des choses pareilles, avec des chameaux en pagaille, avec des richesses extraordinaires. Ils amènent l'or, l'encens, la myrrhe, ils amènent des tas d'aromates, des tas de choses extraordinaires, des tas de richesses extraordinaires. Et ils viennent demander, des païens demandent à Hérode, nous sommes là pour le roi des rois, le grand roi. La tradition nous dit qu'ils ont vu une étoile dans leur pays. Vraisemblablement l'Arabie heureuse, par entre l'Arabie saoudite et l'Iran actuel. Ils ont vu une étoile et dans cette étoile, ils ont vu, nous dit la tradition, le visage d'un enfant. Et ils ont su cet enfant, c'est le grand roi. Ils sont mis en route. Hérode ne cherche pas notre Seigneur Jésus-Christ. Plus exactement, il le cherche pour le tuer. Ça va être le massacre des saints innocents. C'est l'exemple typique des gens qui sont invités, parce que Hérode aussi était invité à la crèche. Il a été invité par les rois mages. Il a même fait croire au roi mage qu'il allait venir après adorer notre Seigneur. Hérode était invité. Il parlait. Donc une des conditions pour pouvoir être sauvé, la condition pour être sauvé, c'est d'avoir la vertu de charité, attention. Tous les hommes ne sont pas sauvés par l'incarnation, comme dit Vatican II. C'est une des hérésies de Vatican II. Par son incarnation, Dieu s'est uni à toute l'humanité, et donc tous les hommes sont Dieu, donc tous les hommes vont au ciel, puisqu'ils sont Dieu. Non, c'est pas ça l'enseignement de l'Église. Il y a des gens qui viennent et il y a des gens qui refusent de venir. Quand on pense à ces millions de personnes qui refusent d'ouvrir les yeux, Hérode, il est mort loin de Dieu. Ça fait frémir quand on pense à tous ces gens qui meurent comme ça, sans s'être préparés. Il y a quelques semaines, quelques jours, vous savez, il y a un grand assassin qui est mort. Giscard, il s'appelait, ancien président de la République. 10 millions de morts sur la conscience. C'est lui qui, en 1975, a fait passer la loi sur l'avortement. Oh, il n'est pas le seul à avoir être responsable. La merveille, comme on dit, est aussi responsable, et Chirac aussi. Mais 10 millions de morts. Imaginez un peu. Hein, entre 150 000 et 200 000 avortements tous les ans depuis 1975. Imaginez le jugement de Giscard. On peut espérer qu'il s'est converti avant. Le problème, c'est que s'il s'était converti, puisque les péchés qu'il a commis d'accepter l'avortement pour la France est un péché public, donc il aurait fallu une réparation publique, elle n'aurait pas eu lieu. Donc, c'est le secret du bon Dieu. Il faut prier pour lui et espérer qu'il soit converti avant de mourir. Mais s'il ne s'est pas converti, vous pouvez imaginer sa mort. Dieu a peut-être permis que les 10 millions d'âmes, d'enfants, qui à cause de lui ne verront jamais Dieu, parce qu'elles sont. Ces petits-enfants sont morts avec le péché originel, ces âmes sont donc au limbe. Ces 10 millions d'âmes ont dû accueillir, d'une certaine façon, l'âme de Giscard pour l'accuser d'être responsable du fait qu'elles ne verront jamais, jamais Dieu. Un péché d'avortement, une peine d'excommunication. 10 millions d'avortements, 10 millions d'excommunications. Ça n'a pas empêché l'église conciliaire d'envoyer deux évêques pour l'enterrer. Vous voyez? Ceci ne doit pas nous décourager. Ceci doit nous montrer que Dieu était venu aussi, s'est fait enfant aussi pour Giscard d'Estaing. Et si Giscard s'était converti, il faut souhaiter qu'il l'ait fait, il pourrait être au ciel aussi. Regardez un autre grand bandit. Lui aussi, on a fait des vertes et des pas mûres. Dismas, il s'appelait. Saint Dismas. Le bon larron. Il a fait que des bêtises pendant toute sa vie. La seule chose bonne qu'il a faite, il l'a faite juste avant de mourir, à l'extinction des cierges, littéralement. Le jour de sa mort, il a simplement s'est tourné vers notre Seigneur et lui a dit, Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Ça suffit. Une phrase de une ligne. Souvenez-vous de moi, Seigneur, quand vous serez dans votre royaume. Et notre Seigneur pardonne tout. Aujourd'hui même, tu seras au paradis. Première personne canonisée par notre Seigneur. Première personne à rentrer au paradis, un bandit converti, et au dernier moment. Il n'a même pas eu le temps de faire pénitence, celui-là. Ça veut dire que tout le monde pouvait se convertir, même Giscard d'Estaing. Même les dirigeants qui sont à la tête d'un pauvre pays aujourd'hui pourraient se convertir s'ils acceptent de se mettre en route et de se diriger vers la crèche de Bethléem. Mais il faut se mettre en route. Si je reste tranquillement assis sur mon canapé en train de regarder la télévision, c'est pas comme ça que je vais me convertir. Il faut accepter de se convertir. Donc, n'oublions pas qu'à la porte de de la crèche. À l'entrée de la crèche, il y a quelqu'un qui nous attend. La Sainte Vierge. Elle est là. Elle accueille tout ce qui arrive. Elle accueille les, encore une fois, les aveugles. Elle accueille les boiteux. Elle accueille les lépreux. Elle accueille les sourds. Elle accueille les mourants. Elle accueille les morts. Elle accueille les pauvres. Elle accueille tout le monde. Tout le monde peut venir. Elle nous aide à nous humilier et assister à la naissance de notre Seigneur. Elle va prendre l'enfant emmailloté de l'ange, son premier-né, son unique premier-né, et nous le confier. On va pouvoir bercer l'enfant Jésus. Il y a des saints qui ont eu cette grâce extraordinaire de recevoir l'enfant Jésus physiquement dans sur leur main, pouvoir bercer l'enfant Jésus. Moi, ça n'est encore jamais arrivé. Hein? Mais il faut passer par la Sainte Vierge. La Sainte Vierge Marie, elle est celle qui nous conduit à notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est celle qui a été choisie par Dieu pour nous donner son humanité. Pour que son humanité puisse devenir la nôtre par la Sainte Communion. Vous allez communier aujourd'hui et par la communion d'aujourd'hui, vous allez recevoir dans votre âme le corps, le sang, l'âme et la divinité que la Très Sainte Vierge Marie elle-même a reçu nous a donné le jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ne nous décourageons jamais, mes bien chers frères, demandons toutes ces grâces par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie pour que nous puissions nous aussi, moi le premier, nous mettre sur ce chemin qui mène à la crèche de Bethléem. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.